OK, on va lire le chapitre 36 du livre de la Genèse. Betsalaël, oups, je t'arrête ça, j'aurais le bon livre, ça aiderait. Ça aiderait pas mal. pour aller le bon chapitre, ça aiderait. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, Hoholibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Jéush, Jéélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit sur la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kénaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voilà les fils de Réuel, Nahat, Zérak, Shama et Miza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta Ésaü, Jéush, Jaélam et Coré. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Miza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voilà les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jéush, le chef Jéélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Ana, fille d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voilà les fils de Séir, le Horien, ancien habitant du pays, Lotam, Shobal, Tibéon, Ana, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotam furent Hori et Émam. La sœur de Lotam fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Karan. Voici les fils de Tser, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tibéon, le chef Anna, le chef Tishon, le chef Etser, le chef Tishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'aucun roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zorak, de Bitsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Hacham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla de Mariska régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Mehetabeel, fille de Matred, fille de Mizahad. Voici les noms des chefs issus d'Isaü, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jephet, le chef Oholibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Isaü, père d'Édom. Donc, lui, vous asseoir. Je veux vous partager quelque chose par rapport à des chapitres de ce style-là. Dans les Écritures, on arrive sur des chapitres comme ça. Parfois, c'est comme il y a beaucoup d'énumérations de noms qu'on a de la misère à prononcer. On est porté à passer très rapidement puis pas regarder tous les principes qui nous sont enseignés là-dedans. C'est une erreur. Chaque mot des Écritures est inspiré de Dieu et Dieu les a donnés pour une raison bien particulière. Si on prenait le chapitre 36, là aujourd'hui on va faire un survol général et en sortant les principes principaux que le Seigneur veut nous enseigner à l'intérieur de ce chapitre-là. Mais si on voulait faire une étude approfondie, on sait qu'à l'époque, tous les noms avait une signification. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui saute dans le chapitre 36, puis qui se met à analyser les noms, puis sortir toutes les relations qu'à l'intérieur de ça, c'est un chapitre extrêmement riche. Pourtant, quand on le lit à première vue, on lit ça, on a de la misère à prononcer les noms, on est porté à dire, ben, moi, je le trouve plate. Il n'y a rien de plate dans la parole de Dieu. C'est un peu comme quand vous arrivez, ceux qui ont lu toute la Bible au complet, quand vous arrivez dans 1 Chronique, je pense que c'est les 16 premiers chapitres, c'est juste des énumérations de noms. J'avoue que quand tu arrives à 1 Corinthiens, à 1 Chronique, chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 16, c'est long. On est porté à dire, veux-tu bien me dire pourquoi que tous ces noms-là sont là? Mais il y a des raisons. Puis quand vous allez lire des personnes savantes qui ont étudié les chapitres, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui est mis dans la parole de Dieu qui n'a pas sa raison d'être. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut tirer comme leçon d'un chapitre comme ça. Tout dans les Écritures vient du Seigneur et tout a sa place. Il ne faut jamais céder à cette tentation-là qui nous vient. Ah bien, pour ce chapitre-là, je chose par-dessus parce qu'il est plate. C'est pas plate. C'est parce que tu es trop paresseux pour aller étudier tout, dans toute sa profondeur et dans toute sa richesse. Première remarque. OK. Ensuite, je vais vous donner le titre que j'ai donné aujourd'hui au sermon. J'ai appelé ça « Le survol de la vie d'Ésaü et de sa postérité ». C'est intéressant qu'à partir du chapitre 37, on change complètement de sujet. Pourquoi le Seigneur, après toute l'histoire avec Jacob et tout ce qui s'était passé, là, qu'il avait été attaqué, il avait tué des gens, le Seigneur, au chapitre 36, il veut nous mettre l'histoire d'Ésaü. Il a mis celle de Jacob. Maintenant, il veut nous présenter qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là qu'on appelle Ésaü, qui était un profane, qui avait vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce qui est arrivé à lui, personnellement, et aussi à toute sa postérité, ses enfants et les enfants de ses enfants. Si quelqu'un prendrait le temps d'analyser dans les Écritures l'histoire d'Ésaü à partir du début, à partir de sa première mention, après ça, le chapitre 36, et qui regarderait les Édomites, qu'on appelle les Édomites, là, la relation que ces gens-là ont eue avec le peuple d'Israël dans l'ensemble des Écritures, on verrait que la Bible en parle beaucoup d'Ésaü, à la fois dans l'Ancien et à la fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi le Seigneur met ça là? C'est parce qu'il veut nous montrer que les deux, il y avait eu deux enfants, Jacob et Ésaü. Jacob a bien tourné et est devenu le père, faisait partie de la lignée messianique, alors que Ésaü, à cause du fait qu'il a vendu son droit d'aînesse, a mal tourné, non seulement lui-même a mal tourné. On va voir les différentes raisons pourquoi il a mal tourné. Et non seulement lui, mais l'ensemble de son peuple, de son temps, et l'ensemble des Édomites, de tout. Moi, ce que je remarque le plus là-dedans, c'est de voir que les péchés d'une personne ont des répercussions sur du long terme. Et nous, c'est pareil, là. Si on fait des bons choix, ça va avoir des répercussions sur nos enfants, puis nos petits-enfants, puis des fois sur des générations. Mais si on fait des mauvais choix, les principes qui nous sont enseignés ici, ils s'appliquent aussi. Donc, on va regarder trois idées dans l'intérieur du texte. Ésaü a eu une vie qui a été caractérisée par la profanation. Il a pris ce qui était sacré, un plat de bine, puis il a sacrifié ça pour son droit d'aînesse. Et il faut se souvenir qu'est-ce que le droit d'aînesse comprenait pour apprécier jusqu'à quel point il était charnel, jusqu'à quel point il a fait une erreur monumentale qui lui a coûté sa vie spirituelle et sa destinée éternelle. Parce que fort probablement qu'il n'était pas sauvé, parce que les Écritures, dans Romains 9, nous dit que Dieu a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». À quelque part, Ésaü, les choix qu'ils ont faits ont eu une répercussion sur sa vie personnelle, spirituellement, et sur la vie de ses enfants et les enfants de ses enfants et sur plusieurs générations. C'est intéressant de noter ça. Donc, on a vu, on va voir les versets 1 à 8, que la vie d'Ésaü est caractérisée par le fait qu'il profane. Profaner, ça veut dire prendre ce qui est sacré, puis comme quasiment cracher dessus. Pour lui, ce qui est important, spirituellement, il crache dessus. C'est un profanateur. Et dans Hébreu, ceux qui se souviennent d'avoir lu dans Hébreu, le Seigneur nous dit de ne pas être comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de bine. Et la deuxième idée qu'on va regarder, c'est que Ésaü et sa postérité, le mal va aller en progression. C'est ce qu'on va regarder à partir du verset 9 au verset 30. Il y a certaines choses qu'on voit dans la vie d'Ésaü qui a eu une progression. Il a commencé par sa profanation. Ensuite, il a marié trois femmes païennes. Et ensuite, il a quitté la terre promise. Donc, c'était quand même aussi comme un genre de mépris du cadeau que Dieu leur a fait. Après ça, il est allé s'installer en dehors du pays. Et on va voir les différentes choses qu'il a fait ou qu'il lui a fait, qui a fait en sorte que lui et sa postérité ont développé une progression dans le mal. Le Seigneur nous montre ça pour plusieurs raisons. Et la troisième chose qu'on va regarder, c'est qu'Ésaü, sa postérité, l'accomplissement de la prophétisation. Autrement dit, on va regarder ce que Dieu avait dit qui arriverait à Jacob et qu'est-ce que Dieu avait dit qui arriverait à Ésaü, et on va voir que Dieu accomplit ce qu'il avait dit. C'est intéressant de voir les trois idées à la suite une de l'autre. Donc, vraiment, le chapitre 36, le Seigneur nous donne des détails sur la vie d'Ésaü et aussi sur la vie de sa descendance. Ésaü est une illustration de l'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme non régénéré. C'est comme si ça serait un exemple. Le Seigneur veut nous montrer qu'un homme non régénéré, il crache sur ce qui est... Aujourd'hui, quand vous parlez à ben du monde de la Bible, ils disent « Achale-moi pas que ton livre de comique. » Il y en a qui m'ont déjà dit ça. « Achale-moi pas que ton livre de comique. » Donc, ils prennent quelque chose qui est sacré et ils crachent dessus. Ils rendent profane et sont coupables, bien entendu, à cause de ça. Alors, on nous montre aussi que l'homme naturel, lorsqu'il fait des mauvais choix, ça a des conséquences sur lui et sur sa postérité, des fois sur plusieurs siècles à l'avenir. Mais aussi, le principe que quand on fait des bons choix, ça a des répercussions sur nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Alors, autre chose que le chapitre nous montre, chapitre 36, nous montre la solidité et la vérité des prophéties que le Seigneur fait. Parce qu'on va reculer un petit peu dans le livre de la Genèse pour se souvenir qu'est-ce que le Seigneur avait dit qui arriverait à Jacob et qu'est-ce que le Seigneur avait dit qui arriverait à Ésaü. Et on va voir que tout ça, ça va s'accomplir. Ça, c'est une belle leçon à tenir du chapitre, parce que quand le Seigneur parle, des fois, il a parlé quelques chapitres en avant, on ne se souvient même plus de ce qu'il a dit. Comment on peut apprécier que le Seigneur est en train d'accomplir ce qu'il a dit si on ne se souvient plus ce qu'il a dit quelques chapitres avant? Alors, on a Romains, chapitre 9, versets 10 à 13. C'est intéressant de noter Romains 9, on lit dans le Nouveau Testament, et Paul utilise encore le nom de ce personnage-là pour montrer que Dieu choisit, principe de l'élection, choisit certains puis rejette certains autres. Alors, dans Romains 9, versets 10 à 13, ça dit « Et non seulement cela, mais il arriva de même à Rebecca, quand elle eut conçu en une fois deux enfants d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » À quoi il fait référence? Il fait référence à la promesse que Dieu avait dit que ces deux enfants-là, Dieu prophétisait leur avenir. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Et selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » C'est des mots forts. Alors, quelque part, on voit la destinée éternelle d'Ésaü, c'est fort probablement une personne qui n'était pas sauvée et qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. Puisque Paul les utilise comme modèle de ceux qui vont être sauvés et de ceux qui ne seront pas sauvés, comme de quoi c'est Dieu qui fait le choix. Choix souverain. Hébreux chapitre 12, versets 16 et 17 aussi, pour vous montrer que, dans le fond, les histoires qu'on lit dans les chapitres précédents et dans le chapitre 36, des leçons pour nous, chrétiens du 21e siècle. Ça dit dans Hébreux 12, versets 16 et 17, « À ce qu'il n'y ait point de fornicateur, ni de profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que, voulant même après cela hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoi qu'il le demanda avec larmes. » Voyez-vous, il a fait un mauvais choix, puis après ça, il l'a regretté. Il a broyé, autrement dit, pour revoir ce qu'il avait perdu. Mais il l'avait tellement traité avec légèreté que le Seigneur a dit « Non, je ne leur donne pas. » Alors, quelque part, il l'a demandé avec larmes, mais il n'a pas obtenu de réobtenir ce que le Seigneur lui avait d'abord donné. Alors, Ésaü a méprisé la bénédiction divine qui était attachée à la postérité d'Abraham. On voit là la suite. Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a fait une promesse dans Genèse 3,15 qu'il enverrait un Messie. Eh bien, il n'est pas arrivé tout de suite, ça a pris 2000 ans avant qu'il vienne. Mais il y a eu une transmission d'un patriarche à l'autre patriarche jusqu'à ce que Jésus arrive. Quand on lit Matthieu 1, qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur est en train de nous rappeler tous les noms de ceux qui se sont, comme ça dit, il y a eu 14 générations de l'un à l'autre, 14 générations de l'un à l'autre, 14 générations de l'un à l'autre. C'est-à-dire, il est en train de nous montrer toutes les générations que ça a pris pour réaliser la promesse qu'il avait faite dans Genèse 3,15 jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, Dieu peut déclarer qu'il a haï Ésaü et que nous devons de nous garder d'être comme ce profane, comme ça dit. Donc, on va regarder les 8 premiers versets. Ésaü, il y a une vie qui est caractérisée par la profanation. La profanation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mépris de ce qui est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? Le nom de Dieu, le lit de ton père. Parce que quand quelqu'un, dans les Écritures, a couché avec la femme de son père, il profanait le lit de son père. Après ça, le temple était sacré. Le sabbat était sacré pour les Juifs, et etc., on pourrait allonger la liste. Donc, quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, a beaucoup de valeur, puis qu'aux yeux du profane, on le dit, pour lui, c'est comme, ça vaut rien. Alors, Ésaü, c'est vraiment le symbole de l'homme charnel, parce qu'il a rejeté avec légèreté les bénédictions qui étaient rattachées au droit d'aînesse. J'ai retourné dans mes leçons précédentes, quand on a fait le fameux droit d'aînesse. Quand il a vendu son droit d'aînesse, on sait qu'il aimait la chasse. Il avait été à la chasse, puis là, il a pris de l'air pur, puis il était fatigué. Il arrive, puis l'autre, il avait fait un bon plat de bine. Fait que là, il dit, donne-moi de ce roux-là, il faut que j'en mange, sinon je vais crever, là. Je suis aveugle de crever. Fait que l'autre, il a échangé. L'autre, il dit, ouais, moi, t'en donné un plat de bine, mais promets-moi que tu me vends ton droit d'aînesse. L'autre dit, qu'est-ce que ça me vaut, ce droit d'aînesse? Prends-le, le droit d'aînesse. Il l'a fait, mais ça lui a coûté très cher. Alors, le droit d'aînesse. Quand on regarde dans Genèse 12, on a, quand Dieu a commencé à parler à Abraham, alors on voit la suite des personnages que Dieu a utilisés pour amener l'arrivée du Messie. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, on a l'alliance. Dieu disait, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père, dans la terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudira. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Il est en train de parler de l'arrivée future de Jésus-Christ, qui même ceux qui, de l'Ancien Testament qui croyaient au Messie à venir étaient sauvés à cause de la foi au Messie à venir. Puis nous, à partir du moment que la croix est venue, Jésus est venu, on croit au Messie venu. On croit toutes les deux. Le peuple de l'Ancien Testament croyait au Messie à venir. Nous, on croit au Messie venu. Dans Genèse 22, pour montrer comment les promesses de Dieu était importante et était précieuse. Genèse 22, versets 16 à 18. « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cette chose-là, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » On se souvient, c'est quoi le passage? Le passage où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Puis là, Dieu lui dit, « À cause que tu n'as pas refusé de me donner ton fils. » Et verset 17, il dit, « Je te bénirai de toute bénédiction, au pluriel, et je multiplierai abondamment ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité parce que tu as écouté ma voix. » Voyez-vous, l'obéissance d'un homme a des conséquences sur des milliers d'années à venir. Il obéit, le Seigneur le bénit abondamment. Et on est le récipiendaire de cette. Donc, les bénédictions qui étaient rattachées au droit d'aînesse sont les suivantes. L'aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions qui étaient contenues dans les promesses de l'Alliance. C'était beaucoup. Deuxièmement, l'aîné recevait l'autorité du père sur ses frères. Donc, lui, normalement, il aurait dû être, comme on pourrait dire, avoir de l'autorité sur ses frères. Et Dieu avait dit que c'était le plus jeune qui était pour prendre sa place. Troisièmement, l'aîné devenait un maillon et il était un anneau dans la chaîne des descendants qui donnerait le jour au Messie. C'est comme si, en étant le plus vieux, il devenait un des maillons qui conduisait à l'arrivée future de Jésus-Christ. C'est comme si lui avait dit, « Pas important, j'en veux pas de ça. » Quatrièmement, l'aîné recevait une double portion de l'héritage paternel. C'est comme si lui avait dit, « J'en veux pas de ça. » Cinquièmement, l'aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. Sixièmement, l'aîné recevait l'héritage terrestre, donc l'héritage de ce qui se passait après la mort du père. Et septièmement, l'aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes. Quand on regarde, si on prendrait le temps d'analyser en profondeur tout ce sur quoi il a craché. Mais il ne l'a pas fait physiquement, mais c'était comme l'équivalent. Je vous avais dit dans cette leçon-là, Arthur Pink, que je trouve qu'il a écrit une superbe belle phrase concernant l'explication de la décision d'Ésaü. Il dit, dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, il dit « Le terme profane a une signification plus spécifique et une application plus large que ce qui est communément accordé dans notre discours d'aujourd'hui. » Bien sûr, quand on dit « droit d'aînesse » aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça? Pas grand-chose. Hein? Mais à l'époque, c'était vraiment énorme. Il dit « On dit que les choses saintes sont profanées quand les hommes enlèvent la vénération qui leur est due et les exposent à l'usage commun ou au mépris. » Après ça, il dit « Profaner, c'est violer, corrompre, prostituer à usage commun les choses sacrées, soit dans leur nature ou par institution divine. Une personne profane est une personne qui méprise ou condamne les choses sacrées, comme se moquer de la religion, ou qui regarde à la légère ses promesses ou ses menaces, qui méprise ou néglige son culte, qui parle avec irrévérence de ses préoccupations. Nous appelons ces personnes profanes dont le monde est rempli aujourd'hui. » N'est-ce pas? Quand on parle de se moquer de la religion, y a-t-il une chose plus commune que ça de nos jours? Regarder les promesses de Dieu à la légère, y a-t-il quelque chose de plus commun que ça de nos jours? Quand on parle aussi de mépriser ou de négliger le culte, y a-t-il quelque chose de plus commun que ça de nos jours? Qui parle avec irrévérence des choses divines, y a-t-il quelque chose de plus commun que ça? Alors, des Ésaü, tous les êtres humains qui sont irrégénérés, sont en quelque sorte des Ésaü qui profanent les choses sacrées. Donc, on regarde la vie caractérisée par la profanation. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Dans Genèse 25, ça dit, Genèse 25, verset 34, « Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Ça a été fait, mais je pense que le chapitre 36 a pour but de commencer à nous montrer les conséquences de ces affaires dans l'avenir. Deuxième chose qui nous montre qu'il était profane, il a méprisé les désirs de ses parents. Pour lui, faire partie de la famille choisie par Dieu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il le démontre d'une manière en mariant trois femmes qui sont des inconverties. Alors, il dit dans le Genèse 28, versets 8 et 9, voyez-vous, remarquez bien comment les phrases sont dites. Ésaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, c'est pas qu'il ne savait pas, puis qu'il. Il voyait que ça déplaisait à son père, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait pareil.
Il a fait pareil. Alors, il s'en alla vers Ismaël. Et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham, sœur de Nébajot. Puis on voit dans le texte d'aujourd'hui, 36, qu'il a pris trois. Il a pris trois femmes incroyantes, il s'est marié avec, il a eu des enfants avec. Et on va voir que ça va avoir des conséquences énormes sur sa vie. Donc, il a méprisé son droit d'aînesse. Deuxièmement, il a méprisé les désirs de ses parents. Même sachant que ses parents étaient à compte qu'il se marie avec des inconvertis, il l'a fait pareil. Troisièmement, il a méprisé le pays de la promesse. Comment on le voit qu'il a méprisé le pays de la promesse? C'est qu'il savait qu'il était dans le pays de la promesse, puis il l'a quitté volontairement. Il dit, moi, je ne veux plus revivre ici, il est sorti. Il est vrai que la Bible dit qu'il y avait des biens, toutes les deux, en grand nombre, et qu'il y aurait eu de la misère à vivre ensemble. Mais il reste qu'il a quand même quitté le pays de la promesse. Il aurait dû l'apprécier plus que ça. Voyez-vous, dans Genèse 36, verset 6, ça dit, « Ésaü prit ses femmes, ses fils, ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob. » Donc, il y a trois choses déjà que ça ne va pas bien en affaire. Et Ésaü quitte le pays de la promesse si précieux pour son grand-père Abraham et pour son père Isaac. Donc, à quelque part, tout de suite là, ça ne va pas bien. Son droit d'aînesse Ensuite, il marie des inconvertis malgré qu'il savait que son père était contre. Et ensuite, il quitte le pays de la promesse comme si le pays de la promesse n'avait aucune valeur. Ça va pas bien son affaire. Une vie caractérisée par la profanation. Maintenant, le verset 9 à 30, on ne relira pas, mais c'est juste de sortir les principales idées, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre-là. Et les principales idées, c'est qu'à partir du verset 10 au verset 19, on voit se développer chez Ésaü et sa descendance un orgueil militaire qui est devenu plus tard des ennemis d'Israël. Si vous prenez la Bible au complet, vous allez voir dans l'Ancien Testament, certains livres parlent encore des fils d'Ésaü, sa descendance, sont devenus des ennemis d'Israël. T'as deux frères! Jacob et Ésaü, c'est deux frères. Mais il est devenu... C'est comme si tu avais un frère, puis que les enfants de ton frère deviennent tes ennemis. Quelque part, on voit que ces choix spirituels ont eu une répercussion. Et on voit l'accomplissement de la prophétie divine là-dedans, parce que l'Éternel avait affirmé à Ésaü qu'il vivrait de son épée. Il lui avait dit dans Genèse 27, versets 39 à 40, et Isaac, son père, répondit, il lui dit, « Voici, ta demeure sera de la graisse de la terre. » Il est en train de lui dire, « Oui, tu vas être riche. Ta demeure va être de la graisse de la terre, donc c'est pas ce côté-là que tu vas avoir de la misère. De la rosée des cieux d'en haut. » Et verset 40, « Et tu vivras de ton épée. » Et quand on regarde l'histoire des Édomites, les descendants de Ésaü, ils ont été des conquérants militaires et ils ont vraiment vécu de leur épée. Mais ça dit, après ça, mais il arrivera, tu seras errant et tu briseras le joug de dessus ton cou. Autre chose qui est à remarquer dans le texte, il y a un nom qui est mentionné, qu'on passe dessus rapidement, parce que quand on passe rapidement sur des chapitres comme ça, on manque des choses intéressantes. Ésaü fut l'ancêtre de Amalek. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, Amalek? Quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'Amalek, c'était des ennemis d'Israël aussi. Donc, Ésaü est devenu le père de Amalek, qui est devenu aussi une nation qui était contre Israël. Exode 17, versets 8 à 14, nous montre un petit peu tout cela. Alors, Amalek vint et livra bataille à Israël, à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre contre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël était le plus fort, mais quand il reposait sa main, autrement dit, quand il priait, il était fort, quand il ne priait pas, il était faible. Ça ressemble à nous autres, ça. Et quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutinrent ses mains. Il dit, quand il avait les mains dans les airs, là, puis il chicanait avec le peuple d'Amalek, il avait la victoire. C'est quoi le symbole? C'est le symbole que quand tu pries, tu es fort. Puis quand il baissait les mains, c'était Amalek qui réussissait à combattre le peuple d'Israël. Et donc, ça dit, il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutinrent ses mains. L'un de côté, autrement dit, il était tanné de prier, puis il fallait que quelqu'un l'aide en tenant ses mains en l'air pour qu'il puisse continuer d'avoir la victoire. D'un côté et de l'autre, ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Manitou, ça y prenait deux personnes pour l'aider, autrement dit, à garder son rythme de prière. Et le verset 13, ça dit, « Et Josué défie Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. » Mais regardez bien le verset 14. « Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémoire dans le livre et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Quand le Seigneur enlève la mémoire d'un peuple, c'est pas glorieux pour lui. Autrement dit, il y a eu un enfant, déjà eu, qui est devenu un chef militaire qui a combattu Israël dans le temps. Et le Seigneur a dit qu'il va effacer son nom de dessous les yeux. On l'a dans Deutéronome 25, verset 17 à 19, on ne le lira pas, mais il reste que la fin du verset 19 dit « Tu effaceras d'Amalek de dessous les cieux. » Ne l'oublie point! C'est Dieu qui parle. Dieu a dit, eux autres, là, ils ont voulu combattre Israël, détruis-les complètement. Autre chose qui s'est passée avec les descendants, des Ahu, ce qu'on appelait les Édomites. Les Édomites se réjouirent des malheurs d'Israël. Quand Israël ont connu des moments difficiles, comme par exemple lorsque Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem, puis qu'il a pris le peuple, puis qu'il les a amenés à Babylone, qu'est-ce qui s'est réjoui de ça? Les enfants d'Amalek, les enfants d'Ésaü. Psaume 137, verset 7. Alors, quand que Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, les enfants d'Ésaü, ils applaudissaient. Alors, ça dit dans le 137, psaume 137, verset 7, « Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. » Il était content que le peuple d'Israël se fasse conquérir par les Babyloniens. Et ça, c'est pas un bon signe. C'était quand même son frère. Et dans Ézéchiel 25, versets 12 à 14, ça dit, « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance. » Voyez-vous, on l'a dans Genèse, on l'a dans Exode, on l'a dans plusieurs livres. Alors, l'histoire d'Édom, souvent la Bible l'utilise. « Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance à l'égard de la maison de Judas. » Il s'est rendu coupable en se vengeant d'elle. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine homme et bête, je le réduis en désert, de Téma à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils traiteront Édom selon ma colère et selon ma fureur, et ils sauront ce qu'est ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, on voit que la lignée des Édomites ont mal tourné, se réjouissaient du malheur des autres, combattaient contre l'Éternel, mais que l'Éternel disait, un jour, on va les effacer. Autre chose qu'on oublie quand on lit le texte rapidement, on ne se rend pas compte que dans le Nouveau Testament, on nous présente des personnages, les Hérodes. Hérode le Grand, il y a eu plusieurs Hérodes. C'était toutes des pourris. Toutes des pourris à l'os, comme on dit. C'était des descendants d'Ésaü. Plusieurs souverains de la Palestine et des régions voisines, dans le temps que Jésus est venu, furent gouvernés par un membre de la famille cruelle des Hérodes. Alors, si vous prenez dans un dictionnaire biblique, cherchez dans Hérode, vous allez voir, ils font comme des genres d'histoires de toute famille, père, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, puis quand vous lisez l'histoire de ces bonhommes-là, c'était vraiment des êtres très cruels. Hérode le Grand, qu'on appelait aussi Hérode Antipas, Hérode le Tétrarque, Hérode Agrippa, alors on pourrait nommer des noms, vous allez retrouver dans les Écritures. Du premier, Auguste, qui était un général, pas un général, mais celui qui gouvernait les Romains à l'époque, Auguste a dit, de Hérode Antipas, il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils. Parce qu'il y avait des enfants, et ses enfants voulaient tellement prendre le pouvoir qu'entre eux, ils s'entretuaient, et c'était d'une cruauté. Alors ça, c'est des descendants d'Ésaü. Il y avait énormément d'intrigues meurtrières dans ces familles-là, et aussi des affaires féroces qui se passaient. Quelqu'un qui veut s'embarquer dans l'histoire, puis qui étudie ça en profondeur, il se rend compte que, dans le fond, les fils d'Ésaü étaient plus que mal tournés, étaient devenus des rois méchants qui s'opposaient à Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Alors, rappelons aussi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé d'Hérode le Tétrarque en l'appelant « ce renard ». Il parlait d'Hérode le Tétrarque, puis il dit « ce renard ». Aussi, dans versets 20 à 30, on voit qu'ils se sont mariés. Quand il dit qu'il est parti pour le pays de Séir, ceux qui étudient l'histoire se rendent compte que sont arrivés là, c'est une région et un peu de montagne. Des fois, ils restaient à flanc de montagne, ils restaient comme dans des cavernes. Et il était tellement orgueilleux, il pensait qu'il était inatteignable, que militairement, personne ne pouvait les vaincre. Pourtant, le Seigneur a permis qu'ils soient vaincus, puis qu'ils soient... Mais il y avait les Horiens, là, dans la région qui est arrivée, lorsqu'il est arrivé, lui, Ésaü et sa famille, tranquillement, pas vite, il a vaincu militairement les Horiens qui étaient autour, et en les vainquant, il a commencé à faire des intermariages avec les païens. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu et qui se marie avec les Horiens, qui étaient des nations païennes avec des mœurs épouvantables, et qu'il se marie avec eux autres, ils deviennent comme eux autres. Oui, on voit la progression dans le mal. Comment dire? Il sort du pays, quand il est arrivé hors du pays, il se bat avec les Horiens. Les Horiens, après qu'ils ont eu vaincu, ils commencent à avoir des intermariages avec eux autres. Alors, on voit tout ça dans l'intérieur du texte, il faut l'étudier en profondeur. Alors, les Horiens habitaient la région de Séir avant les Édomites, et les descendants d'Ésaü les conquirent militairement, mais ne les expulsèrent pas. En les expulsant pas, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ah, les enfants d'Ésaü trouvent les filles, les Horiennes belles, se marient avec, donc ils adoptent leurs mœurs. Tu sais, les Écritures, là, de toutes les la Bible nous dit qu'on ne se devrait pas d'avoir des relations avec des inconvertis. Alors, les intermariages avec cette nation-là, qui était les Horiens complètement païennes, ça a fait en sorte qu'ils se sont, ils ont suivi leur voie, et aussi, ils se sont corrompus davantage. On voit-tu le lien? Progression dans le mal. Et la Bible avait dit aussi que des rois sortiraient des reins des Ahus. Troisième point, la Bible nous avait donné des prophètes, des prophétisations sur des personnages, le personnage des Ahus et sa descendance. Et on va voir que dans le verset, chapitre 35, verset 11, le Seigneur avait dit qu'il y avait des rois qui sortiraient des reins des Ahus. Et les derniers versets, 31-43, nous montrent qu'il y a plein de rois qui sont sortis des reins d'Ésaü. Mais autre chose qui est dit dans le texte, qu'on ne porte pas attention, ça dit qu'ils ont eu des rois avant Israël. Avant qu'Israël ait des rois, c'est à quoi le gouvernement? On appelle une théocratie. Le peuple était gouverné par Dieu lui-même et les gens acceptaient que ça marche de même. Ça s'est mis à mal tourner quand ils ont voulu faire comme les nations. Ils ont dit, nous autres aussi, on en veut un roi. À cause qu'ils voulaient avoir. La foi, elle croit que Dieu intervient sans que tu le vois. Alors, ils voulaient avoir un roi comme les nations. Mais, autrement dit, Ésaü et sa descendance ont commencé à établir le système de la royauté avant. C'est ça que ça dit dans le texte, vous lirez le texte. Ça dit qu'ils ont commencé à établir le système de la royauté et de se débarrasser de la théocratie plus vite que les Juifs. Alors, c'est encore un autre signe que tu ne fais plus confiance à Dieu pour gouverner le pays. Tu décides que toi, ça te prend un roi. Puis là, tu vois les noms des rois, ils les nomment tous. Puis là, même, il dit qu'ils l'ont eu avant Israël. Voyez-vous, dans Genèse 36, verset 31, ça dit... Et voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Autrement dit, ils ont abandonné la théocratie avant les Juifs. Ça, c'est un autre signe de la corruption. Autrement dit aussi, le fait que Jacob va dominer sur Israël, ça aussi c'est une prédiction, une prophétisation de Dieu, qu'il avait dit dans Genèse 25, verset 23, « Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand servira le plus petit. » Et on voit dans Romains 9 le décret d'élection qui dit que « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » Donc, la question de la domination, on la voit dans l'intérieur de toute la Bible. Et l'autre point qui était dans la prophétisation, c'est le don de terre qui est fait par l'Éternel à Ésaü. Dans Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 6, on voit que l'Éternel avait donné au peuple d'Ésaü une terre, le pays de Séir. Et qu'à un moment donné, le Dieu est obligé de dire au peuple d'Israël, « Je ne veux pas que vous les attaquiez parce que je les ai donné cette section-là. » Regardez Deutéronome, chapitre 2, verset 1 à 6. « Puis nous retournâmes et partîmes pour le désert dans la direction de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait dit. Et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séir. Et l'Éternel me parla en disant, vous avez assez fait le tour de cette montagne, tournez-vous vers le nord et commande au peuple et dis-lui, vous allez passer sur la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui demeurent en Séir, et ils auront peur de vous. Mais soyez bien sur vos gardes, n'ayez point de démêlés avec eux, car je ne vous donnerai pas même de leur pays pour y poser la plante du pied. » Car j'ai donné à Ésaü la montagne de Saïr en héritage. Il ne voulait pas du pays, de la promesse. C'est-à-dire, je lui donne le pays de Saïr. Puis quand le peuple d'Israël a voulu passer par là, il a averti le peuple d'Israël, « Je ne veux pas que vous vous chicanez avec eux autres, parce que c'est une terre que je leur ai donnée. » Donc, vous achèterez d'eux les vivres pour de l'argent, et vous mangerez, vous achèterez d'eux aussi de l'eau pour de l'argent. Et, bien entendu, qu'est-ce que Dieu avait dit, qu'ils vivront de leur épée. On peut tout regarder dans l'ensemble des Écritures qui parlent d'Ésaü, et c'est vrai qu'ils ont vécu de leur épée. Quelles sont les applications qu'on peut faire de ce texte-là aujourd'hui? Il y en aurait énormément, mais on est sorti trois. La première, je dirais, tirons leçon des graves conséquences de nos péchés et de nos choix charnels sur nous-mêmes, sur notre postérité, et sur, possiblement, notre destinée éternelle. Ésaü a commis une faute très grave en méprisant son droit d'aînesse et en profanant ce qui était précieux spirituellement. On a une leçon à tirer là-dedans. Nos choix, comme chrétiens, ont des conséquences sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur les enfants de vos enfants. Et ça pourrait être une étude approfondie à faire, là. Ceux qui ont eu des chrétiens de génération en génération, souvent on va voir ça deux, trois, quatre générations après qu'il y en a un qui a vraiment donné sa vie au Seigneur, qui l'a servi, qui a été fidèle au Seigneur, comment le Seigneur bénit les générations qui suivent. Autrement dit, ce qu'il faut retenir d'un texte comme celui-là, c'est quand on fait des mauvais choix, ça a des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais sur ceux qui nous suivent. Il faut retenir ça. Deuxième, retenons que nos mauvais choix et nos péchés nous amènent souvent à progresser dans le mal, un peu comme on a vu. Si on fait des mauvais choix, souvent ça ne restera pas là, on va aller encore plus loin dans le mal. Il va y avoir une progression dans le mal. Troisièmement, rappelons-nous aussi constamment la solidité et la fidélité du Seigneur dans l'accomplissement de ses promesses. On le voit aussi dans l'intérieur de ce texte-là. Je veux terminer en vous donnant une citation d'un commentaire biblique en français qui a été écrit sur la Genèse, qui s'appelle Philip Everson. C'est un réformé baptiste et il donne une belle conclusion du livre de cette section-là de Édom. Il dit, je le cite mot pour mot, Édom symbolise les nations orgueilleuses du monde qui se dressent contre Dieu et son peuple. Leur arrogance est un affront à Dieu. Elles agissent comme le prince des ténèbres qu'elles servent. Édom devient le type de la postérité du serpent, de ces puissances impies opposées au peuple de Dieu. Le jugement contre Édom préfigure ce qui attend le monde en révolte contre Dieu. La postérité de la femme mettra fin à cette opposition. Oui, 1 Corinthiens 15 dit, « Car il faut qu'il règne, parlant de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Que notre grand et glorieux Seigneur soit loué, béni et adorer à tout jamais, pour toutes ces merveilles dans nos vies. Amen.